Particularité, moi je ne pourrais pas être avec vous jeudi soir. Donc pour la visio de jeudi soir, je veux bien, Sabrina, que tu prennes la main pour le lien Zoom.
Ça marche.
Voilà, je serai en conseil d'administration du collège. On en a un tous les 10 jours en ce moment. Voilà, nous fermons les classes, le collège, enfin, c'est pas nous, mais nous fermons les classes en lien avec les parents, puisque les cas de Covid se multiplient,
Ah bon?
profs et étudiants. Ouais.
Ah ouais, je crois
Ouais.
que c'était en chute libre actuellement, non?
Bah, je pense que c'est en chute libre à certains endroits et au niveau national sur les paramètres. Voilà. Dans le collège de Senlis, ce n'est pas du tout en chute libre, c'est en.
Ah merde.
Voilà. Il se le refile. Et il y a une prof qui est bien alitée en plus. Voilà, qui est dans une. Donc voilà.
Bon.
Pour la petite tendance. Sur le sujet du jour, on avait Vincent, est-ce que tu as eu le temps d'appeler des agriculteurs en circuit courant?
Non, du tout.
Alors moi j'en ai appelé trois, enfin j'en ai appelé plus que ça, mais j'en ai eu que 3 sur 5. Donc peut-être que je peux vous faire des retours pour vous dire, Nicolas, ça fait suite à nos discussions les 2 dernières. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'écouter ce que j'avais mis sur le wiki. Je pense pas.
Encore.
Ouais. Donc juste que vous sachiez tous, toutes et tous aussi. Donc Nicolas a son accès sur le wiki, accès à la bibliothèque privée. Pareil, je vais montrer. Donc tout le monde est à un niveau d'accès identique maintenant et sur les 4 dernières sessions. Et donc le sujet de nos discussions de la fois d'avant, c'était de voir. Tout est parti à un moment de la stratégie médiatique et de communication et de profiter de la période de Noël pour communiquer. Et notamment, il y avait la carte des acteurs locaux et il y avait dans l'idée de voir, voilà, faites vos courses de Noël chez vos producteurs locaux, qui était un petit peu ce qu'on avait dit. Après, on est parti dans plein de discussions intéressantes dont je te parlais hier et que tu pourras regarder sur le fond. Mais on se posait la question, et du coup, Vincent pouvait contacter 3, et moi je devais en contacter 3, 4 aussi, de savoir si, un, les producteurs en circuit court déjà repérés avaient prévu quelque chose de spécifique pour Noël. Deux, s'ils étaient intéressés par prévoir quelque chose, et quoi, comment, où, etc. Avec dans l'idée de. Bah, partager le fait que ça peut être une bonne idée, quoi, grosso modo. Mais nous, pas de le rythmer. La seule chose, c'est qu'on peut faire un focus sur la carte des acteurs locaux. Sachez d'ailleurs au passage que du coup, j'ai remonté la carte des acteurs locaux. Avant, il fallait scroller sur le wiki pour aller la voir. Elle était en bas. Là maintenant, il y a les prochains événements avec celui de Marigny. Et puis, vous avez en dessous la carte des acteurs locaux. Voilà, comme ça, c'est. Focuser dessus et les actions en dessous, et j'ai descendu le questionnaire. Dans les producteurs que j'ai appelés, juste pour là pour info, Simon Briand m'a toujours pas rappelé, la fromagerie des filles m'a pas rappelé non plus, c'était pas dispo. Par contre, j'ai eu Clément des Terres Clémentes à Fort qui fait pour info, Nicolas, du vin et du jus de raisin. À chacun des producteurs et des productrices, de toute façon, ça me sert. Moi, je mets à jour la carte en direct avec eux. Je vais un peu plus loin dedans. Donc, on a un vrai sujet de conversation et qui les intéresse beaucoup hein, sur le fait qu'on ait cette carte-là. Donc, sachez que c'est à jour les concernant. Et puis, ça demande d'aller triturer un peu parce qu'ils ne sont pas toujours, eux, très à jour sur leurs moyens de communication. Ça, c'est toujours intéressant de le relever. Pour Clément, pour l'instant, il n'a rien prévu pour Noël. Il répond juste à des demandes bien spécifiques qui peuvent être les coffrets des cantonniers de Fort ou un coffret d'un agriculteur qu'un agriculteur veut offrir et qui est à Mel. Donc lui, il saisit des opportunités plus qu'il n'en crée. Tout simplement pour une raison, il se pose une vraie question, c'est qu'il ne lui reste que 300 bouteilles en stock. Il voudrait tenir avec ça jusqu'à mai, sachant qu'il fait maintenant le marché de Frontenay-Rohan-Rohan. Tous les deuxièmes vendredis du mois et que ça a vachement cartonné la première fois où ils l'ont fait. Donc, il a un vrai questionnement sur le fait de faire quelque chose de spécifique pour Noël, mais le fait qu'on ait eu cette conversation-là, ça a ramené dans sa tête le fait qu'il devait en reparler avec Fred de l'APC dont je parlerai après, qui est le brasseur de Fort, Nicolas. Et du coup, voilà, il se pose cette question-là. Et s'il a quelque chose, il nous le communiquera pour qu'on puisse le mettre sur la carte. Mais ce sera en lien avec un coffret éventuellement avec l'APC de Fort. Voilà. Et le fait qu'on ait eu cette discussion a eu comme mérite aussi de lui faire dire « Mais en fait, j'y pense pas, mais j'ai que 300 bouteilles de vin, mais je ne vends pas que ça, je peux vendre du jus de raisin, et du jus de raisin, j'en ai. » Voilà, donc ça a déclenché ça chez lui. Voilà les premières réactions dessus. La deuxième, j'ai eu Valérie Bost de la ferme du Perret, donc qui est une éleveuse, Nicolas, et qui était à Marigny. Qui elle ne fait pas de colis spéciaux pour Noël parce qu'elle n'a pas décidé d'abattre deux bêtes de plus pour Noël. Par contre, elle a ses colis qui arrivent là tout bientôt et elle se contente de ça et veut pas faire plus volontairement. Elle n'a pas de disponibilité pour cela, sachant qu'en plus, chaque année, en fin d'année, elle tue une vache spécifiquement, met tout dans sa camionnette et elle file en Alsace d'où elle vient. Et elle répercute ça en Alsace dans les gens qu'elle connaît. Voilà, donc pas d'attente, pas de truc spécifique pour elle sur la fin d'année. Très contente par contre de mettre à jour la carte, d'avoir du lien. Et elle ne sera pas Elsa au passage vendredi soir. Elle était super intéressée, mais elle n'est pas disponible. Par contre, si on a fait une vidéo ou une bande audio, elle l'écoutera avec grand plaisir. Voilà, j'en profite pour donner les infos. Et la dernière chose, donc j'ai appelé Fred Mouchon de la PC, donc la brasserie de Fort. Alors, eux, ils sont dans la merde. Ils ne vivent pas le confinement, j'en avais entendu parler, mais le premier confinement avait été extraordinaire. Le deuxième confinement, c'est une catastrophe. Ils sont fermés. Au premier confinement, ils avaient des commandes, des livraisons. Du coup, ils s'en étaient emparés, ça allait à fond. Là, il n'y a plus de commandes. Ils identifient ça notamment par le fait que les gens ont repris quand même pas mal le trajet domicile-travail. Et quand ils ont besoin de bière, eh ben, ils n'y pensent plus forcément. Et du coup, les temps sont durs. Du coup, la discussion et la proposition de mettre quelque chose en focus sur la carte des acteurs locaux était limite une bulle de respiration dans la conversation, en se disant « chouette, on n'est pas tout seul ». Voilà, vous êtes avec nous. Ça, c'était intéressant dans les échanges. Et lui, il met en place… excusez-moi, juste un instant. Benjamin, est-ce que tu peux juste faire moins de bruit, s'il te plaît ? Merci. C'est mon petit garçon de 6 ans à côté. Il met un coffret spécial Noël en place. Il crée une nouvelle bière. Ils ont créé une nouvelle bière aussi avec 3 autres brasseurs. Et il voudrait la sortir pour Noël. Donc, il a une publication sur Facebook. Et s'il y avait un petit focus, il serait bien content. Il a changé ses modes de livraison. Il a fait un drive. Donc, du coup, on a mis à jour sur la carte des acteurs locaux. Et le fait d'avoir fait ça était pour lui vachement important. Et du coup, il se sentait un peu soutenu. Et du coup, j'ai fait le lien, puisque je les ai eus tous les deux aujourd'hui avec… Clément, ils habitent la même commune, mais ils ne s'étaient pas eus sur ce sujet-là et ça a servi à faire le lien entre eux, juste ça. Voilà, pour juste avoir… J'y ai passé, grosso modo, chacun, c'était 15 à 20 minutes. Voilà, 15 à 20 minutes posées. Voilà le retour que je voulais vous faire. Réaction, et Sabrina a déjà demandé à parler.
Ah oui, en fait, puisque c'est pour aller dans la suite de ce que tu viens de dire, en fait, je me permets d'intervenir tout de suite. Donc, par rapport à Fred de l'APC, c'est ce que nous a déjà dit Léopold hier après-midi avec Elsa. Et il s'avère que, c'est un fait du hasard, le matin, j'avais discuté avec une collègue qui s'occupe en fait du comité, on va dire, du CNRS. Et donc, du coup, j'ai été la voir aujourd'hui et donc je lui ai dit que… Parce qu'en fait, il cherche des idées pour mettre des trucs en place. Donc, je lui ai dit que ce serait quand même peut-être bien de contacter justement Fred de l'APC pour que, du coup, au niveau des CNRS, on engage des commandes, pour Noël. Et donc, là, il le passe demain matin en conseil. Ils ont appelé, du coup, Fred cet après-midi, qui est hyper partant. Et donc, voilà. Donc, du coup, ça va s'inscrire. Mais bon, là, du coup, on devient très… très force de proposition, mais bon, je l'ai fait parce que je pense que c'était important, parce que ouais, je me dis qu'effectivement, s'ils ne sont pas bien financièrement, il faut aussi les aider. Et donc, du coup, il va avoir une action au niveau du CNRS, du coup, un appel à commande, justement, de bière de Noël chez eux, qui va être fait dans quelques semaines. Et donc, du coup, je pense que ça peut percoler, parce que du coup, des gens du CNRS, ça peut percoler aussi dans les autres villages autour. Et donc, c'est un peu voir aussi comment nous, on peut aider autrement que par cet aspect qui est quand même très spécifique. Mais...
Eh bien, il a dû... il a dû se dire, mais tout le monde m'appelle du CNRS aujourd'hui.
Il a allumé un cierge, en fait.
Ben, c'est chouette. C'est chouette. Je ne sais pas si vous avez d'autres réactions par rapport à ce que je viens de dire.
Du coup, pour poursuivre, je me dis, parce que du coup, c'est un exemple très simple, mais passer par des associations. Du coup, si on reste sur notre idée de comment est-ce qu'on, du coup, les producteurs locaux peuvent être plus visibles, et bien du coup, les associations, ben, c'est un peu ce que disait Elsa aussi la semaine dernière sur les associations de parents d'élèves, mais je pense que les associations aussi d'entreprises sont des bons moyens de diffuser le local sans que les gens se déplacent, en fait. Parce que là, l'intérêt, je pense que les gens vont trouver, c'est que du coup, ils vont être livrés sur leur lieu de travail. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, qui est souvent un des freins pour acheter en local. Et donc, c'est peut-être aussi ça qu'on pourrait leur suggérer. C'est aussi de peut-être contacter des associations d'entreprises, d'associations de parents d'élèves, des choses comme ça, pour faciliter aussi l'écoulement de leurs marchandises et se faire connaître.
Ouais, ce que j'ai fait aujourd'hui, enfin, en tout cas, c'était dans les conversations, en plus... je suis un ancien, on va dire, commerçant quand même. et voilà. Donc, mais ce qui est intéressant dans les échanges, parce que voilà, on peut appeler tout le monde, mais on revient à notre discussion la fois dernière. On est proactif sur le fait de générer une impulsion. On amène des savoir-faire qui sont nos observations et autres, et parce que on constate que ils n'ont pas le temps de la communication est un métier, certains sont commerçants, d'autres ne le sont pas, hein, pour être tout à fait clair, ils ne pensent pas à des trucs, Fred et Clément, ils se voient tout le temps, mais en fait, ils ne parlent pas de ça, ils parlent d'autre chose, et nous, on ramène ça, donc on a ce rôle-là, mais on est proactif dans ce sens-là, au-delà de quoi que ce soit d'autre, en fait, voilà, donc c'est... là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on pourrait toutes et tous les appeler pour faire ce point-là. Mais on est acteur là. On est complètement acteur et on envoie une impulsion qui est importante. Ouais. Nicolas.
Oui, c'est une question de curiosité. Pardonnez-moi, vous avez peut-être dû la traiter précédemment. Mais en fait, tu viens de faire une comparaison sur un producteur entre les deux confinements. Est-ce que vous avez un peu plus d'indices sur la pérennité des pratiques d'achat au niveau local ? Entre les deux, on ne peut pas faire de règles, j'imagine, hein, entre ceux qui en ont bénéficié la première fois et pas la deuxième, comme c'est celui-là. Enfin, l'hypothèse que tu dresses est intéressante et on peut le comprendre. Mais est-ce que c'est en fait, est-ce que le truc qu'on avait vu la première fois dont Vincent et Sabrina vous m'avez parlé quand j'étais là, c'est en gros, c'était à combien de pourcents un feu de paille en quelque sorte, quoi ?
Juste pour te répondre, il y a eu deux vagues d'enquêtes qui ont été menées par Léopold, ouais, auprès de producteurs en circuit court. Il en a rencontré 25 lors du premier confinement, enfin, il les a eues par téléphone, et il en a eu 11 juste après. Donc, c'est pas hyper représentatif, mais et par contre, il n'a pas refait là, d'enquête pour ce troisième confinement, mais on se disait justement, il y a avec Sabrina, en discutant avec Léopold, que ce serait peut-être intéressant. Mais visiblement, effectivement, c'est assez différent entre les deux confinements. En tout cas, là, ces enquêtes peuvent nous permettre de voir à peu près ce qui est resté à la rentrée par rapport à ce qui avait eu lieu au printemps. Et Léopold va faire sa restitution probablement le 9 décembre. Enfin, la date n'est pas encore complètement fixée, mais si ça t'intéresse, ce sera le 9 décembre au soir après.
Merci, oui, ça, je trouve ça vraiment très intéressant en fait.
Mais pour aller dans la continuité de la question de Nicolas, parce que je pense que ça doit être la troisième fois que je soulève, moi je pense qu'on a tout intérêt à refaire une enquête, même déjà ça peut être quasiment trop tard, parce que on ne sait pas combien de temps va durer encore le confinement, mais sur cette deuxième période, parce que moi je pense effectivement le fait que les écoles soient ouvertes, c'est déjà ce que j'ai dit, que du coup que les enfants mangent à la cantine le midi, que les parents travaillent, et du coup en fait ils gardent exactement leurs mêmes habitudes, que c'est exactement ce que te traduisait Fred, quand il disait qu'ils achetaient leur bière en allant travailler, c'est exactement ça. Donc je pense que de ce fait, il n'y a pas eu une véritable impulsion, en tout cas, ou un changement de pratique au niveau des commerçants en circuit court. Et il y a un autre facteur, à mon avis, aussi qui rentre en jeu. Alors là, c'est peut-être juste pour une question de produits, mais notamment liés au maraîchage. Je veux dire, les produits qu'on trouve actuellement, il faut avoir un peu plus de connaissances culinaires qu'au printemps, quand tu sais, voilà, les tomates, les concombres et compagnie, hein, même si c'est un peu plus tard, c'est plutôt l'été, mais voilà, parce que quand on est à ta quatrième courge et ta quatrième soupe de courge, enfin, moi, à titre personnel, j'en ai un peu ras-le-bol, quoi. Donc, bon, j'ai caricature, mais, mais là, je pense qu'il y a, voilà, il y a plusieurs facteurs qui jouent en même temps qui font que voilà, le rôle du local est, à mon avis, moins présent.
Et, enfin, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces analyses et de ces constats, quoi. Enfin, on voit bien que ça piétine. On voit bien que le deuxième confinement, il y en a qui ont plus souffert. En gros, au premier confinement, ceux qui ont souffert, c'est ceux qui reposaient en partie, voire en quasi-totalité, sur les restaurations collectives. Donc, ceux-là, ils ont vraiment, vraiment morflé. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que le réseau Résalis, par exemple, n'est pas encore super organisé dans les Deux-Sèvres. Donc, voilà, ça n'a pas impacté beaucoup de monde, mais ceux qui dépendaient de ça ont, c'est typiquement le cas de la fromagerie Baudouin à Brulin, il y en a eu un, 12 autres comme ça. Ce qu'on a aussi vu, c'est que à l'issue du premier confinement, dès l'été, semble-t-il, de tout ce qu'ils disent, ce qu'on a vu, on est revenu au point de départ en termes de volume de vente, voire un petit peu en dessous pour certains. Et le deuxième confinement semble avoir attaqué beaucoup plus durement un certain nombre de commerces. Alors Fred, la brasserie, c'est très particulier parce que lui, tout son volume, c'est la vente au bar. Donc là, rebelote, fermeture pendant des mois. Donc voilà, et moi, ça me... Je ne veux pas remettre sur la table la discussion de l'autre fois, mais est-ce qu'on va se contenter de constater que ça ne prend pas, que ça n'avance pas, en tout cas pas à la vitesse qu'on veut, ou... Je suis vraiment très, très gêné, quoi, parce que là, bon, je n'ai pas appelé, j'en avais trois. De toute manière, on voit la fromagerie des filles demain, puisqu'on va discuter avec l'agriculteur, en fait. Donc on
pourra faire jeudi. Pas,
jeudi, pardon. Moi, je voulais appeler Jean-Pierre Carle, je le ferai. Mais je m'attends à ce que tu as déjà eu, Cyril, soit un peu plus général, et on s'y attendait un petit peu, c'est qu'ils ne se sont pas organisés. De la même manière que les agriculteurs s'organisent très peu en collectif, les circuits courts basés sur des exploitations agricoles ne sont pas très organisés, ou parfois avec un binôme, mais dire plus. Donc voilà, je suis très embêté, moi, de s'arrêter à ce constat. J'ai vraiment envie de provoquer des choses, parce que sinon, quand on regarde rétrospectivement, et je ne veux pas parler trop vite parce qu'on n'est pas encore sorti de la crise du Covid et tous les confinements, tout le Bataclan, mais le choc a été d'une violence quand même faramineuse. On est revenu à l'état antérieur en l'espace de 2 mois, à l'été, sauf pour les avions, les aéroports et puis le tourisme de masse, on va dire. On s'est repris un deuxième confinement et de ce que je vois, il tape beaucoup plus sur le moral que sur le porte-monnaie, en fait, le deuxième. Ça attaque les gens, une partie non négligeable, fortement, mais sur le volet psychologique. Après, sur le porte-monnaie, les restaurateurs, c'est sûr qu'eux, ils morflent. Hein. La culture aussi, il y a quelques petites niches là qui ont été ciblées de manière très, très dure, je trouve, par le confinement. Mais voilà, donc moi, ça nous permet quand même de tirer des enseignements déjà. C'est-à-dire que même un choc violent et global n'a pas fait bouger de manière visible les lignes. Mmh. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas bougé. Hein, parce que si les gens vivent mal le deuxième psychologiquement, c'est que le premier les a déjà quand même affectés, les a fait bouger. Mais en tout cas, sur le plan des domaines qui nous intéressent, circuit court, agriculture... je trouve que ça n'a pas eu d'effet, même sur l'agriculture. Hein, je veux dire, c'était une année apocalyptique. Alors, ils ont pensé qu'ils avaient très bien tiré leur épingle du jeu parce que eux, ils n'ont pas subi le confinement. Ils ont pu continuer à bosser, ils n'ont eu aucune restriction. Manque de peau cette année, apocalypse météorologique pour toutes les cultures, en tout cas ici, et je crois que c'est assez général à la France. Donc, ils ont vraiment pris le bouillon. Ben, ce n'est pas pour autant qu'on a une avalanche de demandes de MAE, de luzerne, de passage en bio. Il y en a quelques-uns. Hein, mais voilà. Donc, est-ce qu'on va se contenter de rester spectateur et documenter le collapse en direct, quoi ? J'ai pas envie.
Je te réponds après, BG et Nicolas. En tout cas, je te réponds pour moi. Nicolas ?
Non, mais c'était juste. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire pour ce qui est des circuits courts? Si l'analyse consiste à dire que c'est parce que ils n'ont pas bougé ensemble, qu'ils n'ont pas d'animation, est-ce que tu peux leur proposer de trouver une animation qui permettrait de changer les choses de manière significative?
La proposer clé en main, non, c'est pas notre rôle, c'est pas ce qu'on fera. Par contre, aller les voir comme on fait avec les agriculteurs pour les embarquer dans de l'agroécologie, dans des expérimentations auxquelles ils seraient pas allés ou ils auraient pas pensé s'ils n'avaient pas discuté avec nous. Je dis pas qu'ils font ce qu'on leur a dit, mais ils se disent bah tiens, puisque vous m'en parlez de ça, c'est un truc, ça fait longtemps, mais je vais tester ça. Voilà. Donc je pense qu'on peut faire la même chose avec. Les circuits alimentaires, les circuits courts, les filières, puis pourquoi pas un jour avec les coopératives. J'ai un autre projet, enfin, j'en avais déjà discuté un peu avec Elsa, avec les coopératives, qui est un projet à risque, hein, clairement, quoi. Et la région est prête à couvrir au moins en partie ce risque pour les coopératives. Et voilà, j'ai envie dans ce programme qu'on soit... proactif, non pas. Enfin, on en a longuement discuté, donc je m'arrête de parler. Mais voilà, qu'on prenne la décision dans certains cas, dans certains contextes, de se substituer à l'action collective, non pas en la proposant, mais en essayant de la catalyser, mettre l'étincelle qui allume le baril.
Moi, je veux bien prendre la parole là-dessus parce que ça fait la suite de la conversation de l'autre jour. Moi, je pense que l'étincelle, elle ne suffit pas. Voilà, je pense que la force de ce qu'on est en train de mettre en place dans le consortium, je vais le dire comme ça pour avoir réécouté ce qu'on s'est dit. Et puis, je trouve que ça mûrit, c'est intéressant. C'est la diversité des profils que nous avons. Alors la difficulté, ce serait de refaire la diversité des profils partout, mais vous apportez une démarche scientifique qui est extraordinaire, qui valide plein de choses auprès des gens, producteurs, habitants, un regard avec des données, ce que vous observez, des prises de parole, plein de choses. Des personnes comme moi, on va apporter... OK, une dynamique, une proximité, des savoir-faire un peu particuliers à certains moments et pas forcément utilisés, parce que pour l'instant, c'est de l'observation. Et le mélange des deux fait que ça rassure et ça donne des choses qui peuvent être enclenchées. Et après, nous, on décide d'enclencher un certain nombre de trucs qui vont générer des choses. Je pense, très sincèrement, si on ne veut pas observer, qu'amener juste l'étincelle, ça ne suffit pas, parce que parfois la poudre, elle est mouillée, parce qu'elle est trop dispersée, etc. Je pense qu'à un moment, il faut, ce que je disais la fois dernière, c'est est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on observe, est-ce qu'on n'observe pas. Et je pense qu'à certains endroits, il faut qu'on accompagne plus, qu'on soit un peu plus acteur jusqu'à se retirer à un moment, mais je pense qu'il faut aller un tout petit peu plus loin. Parce que sinon, très sincèrement, on attendra assez longtemps, en fait. Il y a plein d'initiatives qui se passent partout, mais ce qui manque, c'est le liant. Et je pense qu'on peut tester à deux, trois endroits le fait d'accompagner plus. Je prenais le sujet des Halles de Marigny qui revient en boucle. J'ai eu Daniel Baudouin cette semaine. Ils ont eu la première pierre a été posée. Ils démontent, ils montent, etc. Et à un moment, ils attendent qu'on vienne apporter une position. Donc, du coup, on accompagne des projets. On ne pourra pas tout accompagner, mais je pense qu'il est intéressant de regarder comment on fait, parce que sinon, bah là, on a l'APC, pour prendre cet exemple-là, et je prends juste celui-là, ils pataugent, voilà, et ils ne vont pas aller voir à droite, à gauche, parce qu'ils ne savent pas. Par contre, nous, on observe de tout ce qu'on fait, on observe les différents endroits, et on est capable, à un moment, d'interagir. Et de dire tiens, regardez ci, regardez ça, ce qui rejoint ce que tu disais, Vincent, mais de s'assurer derrière, de dire ok, mais nous on est là, en fait, juste on est là, voilà, pas de prendre en main complètement, hein, bien évidemment, mais de dire on est là. Et je pense qu'il y a ça à travailler sur la fameuse ligne rouge dont je parlais en février, et que je pense qu'il y a un petit cap à passer. C'était notre conversation de la fois dernière où, si c'est le cap à passer, il faut vraiment y aller, mais pas y aller juste en impulsant et en se retirant. Je ne vois pas le milieu des deux, là. Et là, peut-être qu'il y a un truc, les conversations d'aujourd'hui me font revenir sur une chose, peut-être que la carte des acteurs qu'on a mis en place peut servir de focale pour dire, OK, on crée quelque chose et on communique dessus pour dire, allez chercher cette carte-là et à eux de venir. Valérie Bost a décidé, du coup, aujourd'hui, pour la première fois, d'envoyer la mise à disposition de ces colis, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent. Elle m'a dit, mais c'est juste la troisième conversation que j'ai avec elle, en disant, mais OK, je t'envoie le mail. Bon, au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas reçu le mail. Mais sinon, ils ne le font pas et puis elles galèrent à chaque fois. Je pense qu'il faut vraiment être acteur sur le fait d'aller les chercher. Donc, il y a à la fois ce que tu disais, Vincent, et le fait de revenir tout le temps. Et je pense que c'est le moment. Voilà, j'ai dit.
Une chose que j'ai relevée quand tu disais, Vincent, enfin, je ne sais plus exactement comment tu le disais, mais en gros, les gens se prennent des grosses difficultés, mais ils ne bougent pas. Je ne sais pas si tu as en tête la question, par exemple, des circuits courts, mais en tout cas, je pense que c'est peut-être naïf, mais j'ai l'impression peut-être que les gens ne font pas le lien entre ce qui leur arrive. Enfin, par exemple, le confinement. Les gens souffrent moralement, mais ils ne se disent pas pour autant « Ah, il faudrait que j'aille chez des petits producteurs ». Le lien, il est beaucoup, beaucoup trop complexe. Et la plupart des gens, ils n'ont aucune notion de ce que c'est que de leur pouvoir en tant que consommateur, par exemple. Eux, ils souffrent parce qu'ils ne peuvent pas voir leurs amis, ils ne peuvent pas faire leur sport, etc. quoi. Donc, je ne sais pas si on n'a pas besoin, nous, enfin, si une de nos places, quoi, ça pourrait justement être de révéler les interactions ou les causes-conséquences et en quoi le projet qu'on mène est une réponse à certains des problèmes rencontrés, par exemple.
Oui, je suis d'accord, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu voulais faire. Parce que si je prends par exemple l'exemple des circuits courts, voilà, il y en a un certain nombre actuellement, 40, 50, je ne sais pas exactement combien, parce qu'on en trouve régulièrement. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est le projet quelque part de la zone atelier, dont Alimentation fait partie, c'est les discussions qu'on a aussi avec les mines. L'objectif, c'est de mettre le territoire sur une trajectoire qui le transforme et qui le rend plus résilient, dit de manière rapide. Et la persistance de circuits courts dans ce territoire est un facteur gigantesque de résilience. Parce que le jour où il y aura vraiment des pépins de pétrole ou d'acheminement, les territoires qui ont gardé plein de circuits courts continueront à manger, les autres, ça sera galère. Voilà, donc en fait, ce qu'il faudrait, quand tu me dis, effectivement, les gens ne font pas le lien de cause à effet, mais il faut qu'on les aide, qu'on les éclaire, que je ne sais pas, enfin, on n'est pas des profs non plus, mais on a justement, enfin, on a aussi un rôle à jouer. Moi, je revendique quand même le rôle des chercheurs comme des acteurs des socio-écosystèmes. On a la chance d'être dans un. Tous les territoires n'ont pas des labos de recherche, mais bon, voilà, celui-là, il en a un. Et on pressent ces trucs-là. Et donc, je pense qu'il faut qu'on communique activement sur le fait que dans l'objectif de maintenir la résilience du territoire, il faut maintenir des agriculteurs et des circuits courts.
Mais c'est exactement ça que je disais. Et je pense qu'on pourrait axer notre intervention sur ça, mais du coup, que ce soit facile d'accès, clair, convaincant.
Vincent, dans ce que tu as dit là, il y a un truc qui me revient à l'esprit que j'avais déjà ressenti ou pensé. Est-ce qu'à un moment, prendre le parti au CEBC, ou en tout cas dans la com, de dire voilà, de toutes nos positions, de ce consortium aussi peut-être, là on vous alerte que si, c'est vraiment une alerte, c'est-à-dire que vous voyez ce qu'on vit, si ce lien-là il n'est pas fait, ça va être compliqué. Donc il faut travailler à ça. Et notre direction, c'est de travailler à ça, mais c'est vraiment de l'affirmer, c'est-à-dire de dire aux gens, quand on entre en contact avec les gens, on n'est pas « bonjour, on vous observe », on a pris un parti pris qui est de dire « si ça ne change pas, on est dans le mur, là, aujourd'hui, là où on est, vous et moi, en train de manger, et du coup, parce que ça, on travaille pile là-dessus », et de le dire avec ce ton-là.
Oui, pourquoi pas. Mais je pense que c'est déjà, justement, on entre dans une certaine forme de proactivité qui est juste dans le discours, hein. Dans un premier temps, je pense que probablement on devra aller plus loin parce que moi je suis pas c'est pas mon métier, je suis pas sociologue et tout, mais je suis quand même très très scotché par le peu d'effet finalement qu'a eu cette crise pour l'instant. Donc ça veut dire que les sociétés sont non pas très résilientes mais très résistantes à mon avis. Elles sont capables d'absorber les chocs sans pour autant se réorganiser. C'est juste de l'absorption. En fait, là, on crée l'argent factice pour l'instant. Donc, je me dis, juste expliquer aux gens que, voilà, il faut… en plus, c'est très difficile de communiquer sur la résilience parce que c'est un peu catastrophique. C'est compliqué, mais ça ne serait pas le pire. Le pire, c'est que non seulement c'est compliqué, mais tout le monde l'emploie et pas du tout à dessein. Donc, chacun a une vision très arrêtée et pas forcément fausse d'ailleurs, parce qu'il y a plein de facettes de la résilience. Mais du coup, bon là, on est sur, à mon avis, un petit obstacle. Mais donc, juste communiquer, il est probable que ça ne suffise pas. Et c'est pour ça que je ne pense pas que communiquer soit une étincelle. Ça ne suffira pas. Par contre, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est peut-être d'être que nous, on soit plus clair sur notre objectif, en fait. Je pense que dans la démarche agroécologique, on est très clair. C'est-à-dire que tous les agriculteurs qu'on va voir, on leur dit, on vient vous voir pour vous réduisiez les pesticides, que vous entamiez une transition vers l'agroécologie. On pense que c'est faisable, on veut essayer de voir avec vous comment ça peut s'adapter à votre exploitation, à vos parcelles. Voilà. On est très clair sur le fait qu'on veut dégager les néonicotinoïdes. Enfin, on se cache de… Voilà. Donc, je pense qu'on a peut-être un message plus clair sur l'agroécologie et qu'il faudrait qu'on l'ait plus globalement. Peut-être, oui. Je ne sais pas si ça suffise, mais ça serait peut-être une première étape déjà. Mais il faut vraiment qu'on réfléchisse bien. Il ne faut pas forcément se précipiter parce que c'est one shot quand même. Si on se trompe, on aura du mal à revenir en arrière. Donc, voilà, faut changer de zone atelier ou en refaire une.
Et bon. Nicolas ?
Ouais, j'ai deux petites choses à dire. La première, c'est l'absorption du choc, là. Honnêtement, je pense qu'il est. C'est pas parce qu'il n'est pas observable qu'il ne se passe rien. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et que bah, historiquement, sociologiquement, on sait que quand il y a du mouvement, ça prend du temps pour le détecter et être capable de l'analyser. Quoi. En fait, on a compris au XXe la Révolution française, si je caricature un petit peu. Alors ça répond pas à ta problématique, mais Il faut quand même vraiment du temps pour comprendre ce qui se passe dans une société, sans même aller jusqu'à la psyché des gens. Et je ne suis vraiment pas sûr que ce ne soit pas des changements assez puissants en réalité qui peuvent se dessiner, quoi. L'autre truc, c'est sur la stratégie. Je ne sais pas quelle est votre expérience. Moi, ce n'est pas une expérience de chercheur, mais c'est une expérience de citoyen. C'est que moi et mon entourage, ils n'ont pas envie d'entendre ce que vous avez à leur dire, en fait, que je leur dis aussi à peu près en permanence. C'est soit tu nous fais chier avec ta fin du monde, soit maintenant, c'est ce que je vous disais, c'était un peu le choc en arrivant ici avec l'anecdote de la voisine, c'est en fait, ils sont dans le déni, quoi. Toutes les paroles se valent, donc la tienne, elle ne vaut pas plus qu'une autre. Alors, avec ton récit de mes deux, là, laisse-nous tranquilles, en fait. Parce que ce n'est pas ça qu'ils ont envie d'entendre, tu vois. Même les gens qui m'aiment, ils me disent que nous, on ne veut pas entendre ça. Ce n'est pas vrai, quoi.
Sabrina ?
Oui, c'est une vraie discussion. Je crois qu'on l'a déjà eue, Nicolas, sur ce que tu viens de dire. Je pense que, ouais, effectivement, ce n'est pas simple. On a eu cette discussion aussi avec Sylvie, hein, quand elle était venue, sur, justement, par rapport aux exposés que Vincent voulait faire. Donc, on pourra revenir. Ce n'est pas là-dessus que je voulais intervenir.
Et avec Léopold ?
Oui, bah, Léopold, c'était
encore autre chose. Tu avais parlé de l'espoir.
Ouais. Oui, mais c'est encore chaud parce que lui, en fait, il disait que le premier confinement, en fait, ça a généré de l'espoir d'un monde d'après qui serait meilleur. Après, il faut savoir ce qu'on entend par meilleur, quoi. Et que là, du coup, vu que rien n'avait vraiment changé en quelques mois, le deuxième confinement, quelque part, il n'y avait plus d'espoir, quoi. C'est aussi pour ça que les gens vivaient plus mal. Mais en fait, là où je voulais en venir, c'est que si effectivement, et je pense effectivement, nos objectifs sont pas, on les a pas explicités aux gens avec qui on travaillait, mais je pense aussi parce qu'en fait, on ne les a pas explicités au sein du consortium. Donc, c'est peut-être aussi ça qu'il faut qu'on travaille. Et donc, moi, je suis... Du coup, ma remarque va dans le sens de ce que tu viens de dire, Nicolas. Je ne suis pas certaine que ce soit en expliquant, effectivement, qu'on va dans le mur et que, du coup, c'est en mangeant local, effectivement, qu'on n'ira pas dans le mur. Mais j'ai l'impression qu'une entrée, en fait, en illustrant avec des cas en fait où le collectif et le fait qu'on ait recréé des solidarités entre humains, mais entre humains et non humains, a permis peut-être de mieux répondre et de mieux vivre cette crise, et de se remettre plus rapidement en fait de cette crise Covid. Et j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs de ce que j'ai entendu dans des émissions de radio. Ça pourrait être aussi une entrée, hein, en disant voilà, maintenant ce type de crise qu'on voyait pas, en fait elles peuvent revenir, donc impossible devient possible, et donc essayer plutôt de se préparer, et en se préparant c'est peut-être aussi en réfléchissant à nos liens entre nous, hein. C'est juste, et entre notre milieu.
C'est Benjamin
que vous entendez.
La question de fond qu'on se pose, mais depuis le début, hein, c'est qu'est-ce qui fait bouger les gens ? Qu'est-ce qui met un territoire en mouvement, en fait ? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit un peu... qu'on s'enhardisse, quoi. Sans se couper, faut pas faire sur l'ensemble, exactement de la même manière. Quand on lance les manips agroécologiques avec les agriculteurs, on démarre petit. On veut aller vite, mais on démarre petit. On travaille avec eux sur 100 mètres carrés dans une parcelle, la première année. La deuxième année, c'est des milliers de mètres carrés, et après, c'est des hectares. Mais on démarre toujours très petit. Et la prise de risque pour l'agriculteur, elle est de moins de 1%. Sur sa surface, même beaucoup moins la plupart du temps. Donc, c'est progressif quand même. Ça peut être localisé. C'est pas tous les agriculteurs, c'est quelques-uns. C'est un petit noyau au début. Donc, c'est peu d'agriculteurs sur une toute petite surface. Et moi, j'aimerais qu'on essaye de réfléchir comment répliquer cette approche, parce qu'elle a quand même... Alors, elle a bien fonctionné pour embarquer les agriculteurs. Pour l'instant, elle n'a pas fonctionné pour les faire changer massivement. Donc, je suis aussi quand même conscient des limites. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à embarquer la transition à haute dose, on va dire. Mais par contre, on a quand même réussi à embarquer des gens qui, au moins localement ou sur quelques parcelles, produit des changements, ont un peu discuté entre eux quand même, on a généré un peu des collectifs. Donc voilà, comment trouver, enfin, comment faire bouger les gens ou le territoire, peut-être à petite échelle, dans un premier temps, avec quoi ? En gros, il y a une option. Cyril, tu me corriges si je raconte des bêtises, que je crois comprendre, qui est, tu te dis quelque part, avant que les gens puissent commencer à bouger de manière collective, il faut qu'ils soient en confiance. Et que ça prend un peu de temps. Surtout dans le contexte actuel, à mon avis, c'est d'autant plus dur parce que on est sous pression et on est tout sauf collectif. Donc, de manière alternative, j'avais proposé à plusieurs reprises qu'un gros choc, et je ne m'attendais pas à un si gros choc, pouvait peut-être faire office de déclencheur, quoi. J'avoue que je suis un peu scotché par le fait que l'énorme choc n'a pas déclenché, je suis d'accord avec Nicolas, de manière visible pour l'instant, mais peut-être en fait de manière profonde. Mais voilà, donc enfin, moi, je n'ai pas la solution. Je voudrais juste que on continue à réfléchir là-dessus parce que ça va vite quand même, quoi. Enfin, le contexte évolue vite. Les gens, non. Les territoires, non. Évolue pas, justement, en tout cas pas assez vite. Et voilà, je voudrais pas. Je trouve que le Covid nous a montré, on était très précurseurs dans le projet, dans ce qu'on avait commencé à mettre en place, mais en même temps, je suis pas sûr qu'on l'ait utilisé, la crise sanitaire, en fait, au mieux.
Tu veux dire nous?
Oui.
Moi, sans rebondir sur ce que tu viens de dire, je voulais rebondir sur ce que disait Sabrina avant. Ça va peut-être faire le lien aussi. Sabrina, elle parlait de nos objectifs à nous, effectivement, ben nous dans le consortium, où on tend à la même... à une même perspective, mais sans forcément l'avoir dessinée, chacun dans nos nuances qu'on fait au fur et à mesure. Mais au-delà des objectifs, je trouve intéressant, en fait, pour embarquer les gens, et au-delà de la confiance dont parlait Vincent, c'est quoi nos motivations ? Parce qu'au-delà de l'objectif, il y a des motivations. Voilà, si j'entendais la motivation quand vous arriviez, que je réutilise de temps en temps, c'est ben voilà, vous avez observé pendant plein d'années... en travaillant sur la production, ça ne suffisait pas. La motivation, c'était de changer de cap pour aller, par exemple, c'est une motivation. Mais la motivation, elle est aussi très personnelle sur nos propres inquiétudes, sur ce que disait Nicolas et que ce sur quoi, en fait, je travaille, moi, surtout en dehors, c'est toutes ces personnes qui sont dans un déni, mais le déni, il est là depuis très longtemps, hein. C'est je ne veux pas couper mon confort et je ne veux pas me mettre dans des situations encore pires que celles qui sont là parce que j'ai des crédits, parce que pression sociale, parce que tout ça. Et c'est super chaud. D'accord, ça c'est un fait. On est tout, voilà, prendre la parole là-dessus, c'est un fait. Okay. Mais c'est quoi nos motivations, les uns, les unes, les autres, voilà. Et notre motivation à nous, en tout cas la mienne, je voudrais parler de celle-là, c'est d'arriver. Ma motivation, c'est de trouver comment. Parce qu'il y a nécessité faire basculer et aller voilà, donc on va dire comme ça, mais ma motivation, elle est d'aller agir au plus petit dénominateur commun, elle est d'aller agir la mienne, hein, auprès des populations pour aller venir percuter. Il y a des personnes qui sont percutées, et là où je rejoins Vincent sur un truc, c'est que pour l'instant j'ai été prudent. J'ai employé ce terme-là, on est sur un projet prudent. On est sur un projet qui ne chiffonne pas, qui, voilà, on est dans un rôle d'observation. Moi, par exemple, j'ai plein d'expertise sur les créations d'un map, sur les machins, etc. Je me tais parce que je n'en parle pas dans les forums ouverts. Vous avez des expertises, mais on ne vient pas appuyer sur ces expertises-là pour dire, voilà, c'est notre motivation de la partager pour provoquer quelque chose à cet endroit-là. C'est une posture, il n'y a aucun souci avec celle-là, elle est très bien. Mais la question qu'on se pose pour moi derrière, elle est sur le qu'est-ce qu'on en fait, c'est quoi notre motivation là-dessus. Et je trouve intéressant d'arriver aujourd'hui à ça, parce qu'après 2 ans, finalement, le projet depuis 2 ans, il permet d'arriver à plein de conclusions. Il faudrait un jour qu'on se pose pour se dire, ouais. Tiens, même un mardi, un jeudi, je propose de faire ça dans pas très longtemps. OK, chacun de nous, en brainstorming, en popcorn, une conclusion sur les 2 dernières années qu'on vient de passer, très perso, très, très prise de hauteur, mais c'est quoi les conclusions ? Moi, j'en ai plein, on en a déjà parlé, etc., sur les territoires, comment ils bougent, y compris ces territoires dans lesquels on est, des conclusions à Marigny, des conclusions à d'autres endroits, mais je trouve que ce serait intéressant pour passer le cap et se dire, OK, on a fait ça, maintenant on est motivé, on passe au point suivant et on peut prendre la parole comme ça. Je ne sais pas si je suis super clair dans ce que je dis, mais voilà, il y a cette force de conviction un petit peu plus. Nicolas.
Ouais, moi je suis très frappé, et ça fait pas longtemps que j'échange avec vous, par le fait que en fait il y a une injonction forte de volonté de changement. Par exemple, quand j'écoute Vincent, et de voir que c'est par les moyens de la science, en gros, que les changements doivent être produits. Et que, en fait, c'est, enfin, en tout cas, ça doit y contribuer. Enfin, tout à l'heure, je t'ai demandé si tu voulais t'impliquer directement. C'était pas ta réponse, en fait. T'as bien dit que c'était pas ton truc, quoi. Et grosso modo, les gens qui produisent des changements brutalement sous forme de choc, en général, ils s'investissent pas dans des carrières de scientifiques. Hein. Si on regarde les bolcheviks ou la fraction armée rouge, c'est pas ça qu'ils avaient choisi, quoi. Alors, j'ai pas dit qu'ils avaient vraiment réussi, mais en fait, je trouve vraiment que tu fais porter quelque chose de très fort dans la volonté d'arriver à concourir à produire un changement sur un territoire, à une activité qui le produit pas aussi vite, en fait, qui le produit probablement dans un temps qui est plus long et plus lissé, quoi. Et ça y contribue, mais il y a des agents qui le propagent, tout ce truc là quoi. C'est, j'aime beaucoup la phrase, je crois qu'elle est apocryphe, mais qui est souvent prêtée à Mussolini, donc il faut pas trop la citer, qui dit que la révolution est une idée qui a trouvé une baïonnette, ou Napoléon, je sais plus, enfin, c'est souvent repris comme ça. Là, en fait, tu as les idées, mais je ne suis pas sûr que tu aies la baïonnette, en fait.
Non, mais en fait, il y a trois points, je vais les dire brièvement pour laisser tout le monde parler. Dans le désordre, déni. On avait discuté, Nicolas, je ne sais pas si tu te souviens, cet été, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de caractériser ce que c'est que ce qu'on appelle le déni, et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Et je me demande, en fait, c'est surtout ça que je voulais dire par rapport au déni, est-ce que vous considérez que ce déni est un obstacle, ou est-ce qu'on peut très bien arriver à faire évoluer les choses malgré le déni ? Voilà. Est-ce que c'est un pseudo-problème ou un vrai problème de fond, et il faut qu'on casse le déni, sinon on n'y arrivera pas ? Je n'ai pas la réponse. Après, par rapport à changement, bon, l'idée développée ici, là, c'est de dire si on ne change pas, on va dans le mur. Donc, il faut absolument essayer d'arriver à faire en sorte que les gens se prennent en main, les acteurs du territoire, pour gouverner leur territoire et l'emmener sur une autre trajectoire, parce que celle-là, elle est un peu catastrophique. Bon. Il y a une deuxième option, qui est plutôt celle de la résilience, qui est de dire donnons les outils, les cartes, pour que ces territoires aient un maximum de chances d'être résilients. Donc, ce n'est pas forcément les faire changer, ce n'est pas nécessairement même les transformer, encore que, mais c'est les armer, les outiller pour être capables de se réorganiser face aux chocs qui sont de toute manière à la fois certains mais totalement imprévisibles. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à travailler là-dessus, parce que il faut qu'on se décide, en fait. On a trop de questions là.
Mmh.
Non, mais c'est important de les formuler et puis de voir quelles sont les réponses. Je pense qu'elles ne sont pas uniformes, en fait. Pour le déni, moi, je suis persuadé que c'est un grave problème parce qu'en fait, ça crée une autre réalité avec laquelle on entre en concurrence, et c'est une réalité face à laquelle on perd, parce que ce qu'on a à offrir en se mettant dans la vraie réalité, c'est moins séduisant que une bagnole, des congés payés, des vacances au ski, enfin l'autre bout du monde de temps en temps. Enfin, c'est juste hallucinant la promesse du déni.
La promesse du déni, elle répond aux besoins de confort dans lesquels la société nous a placés. Alors, juste vous donner une petite anecdote. Nicolas, tu ne dois pas le savoir, mais j'ai un gros engagement sur de la récup alimentaire. Donc, je récupère, en un an et demi, j'ai récupéré 3,5 tonnes, hein, qui passent dans mes composteurs. Et il y a 60% qui vont au compost, 40%. Et sur le partage, au départ, il y a plein de freins. Et puis, il y a un frein qui fait que ça ne tient pas dans le temps. C'est que les gens, le fait de devoir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on va dire 4 semaines, prendre du temps pour aller eux-mêmes cuisiner, ça le fait. Sur 4 semaines, ça le fait. Plus, ça ne le fait pas. Parce que, ce temps-là, je ne veux pas y renoncer tout le temps. Un petit peu, ça va, mais pas tout le temps. Donc, il y a des fois, j'ai un élan, puis je l'arrête. Et ça fait juste un parallèle avec ce que j'ai vécu à Colibri, justement, sur cette impulsion et le fait que les citoyens s'en embarquent. C'est comment on fait durer dans le temps. Donc, comment on déclenche, mais comment on fait durer dans le temps. Et quand je réalise ce que ça veut dire pour moi dans ma vie de tous les jours, je me remets tout de suite dans le déni. Je pense qu'il y a des gens qui ont... Plein de gens ont réalisé des choses au moment du premier confinement. Et là, ils se remettent dans le déni, mais version deux fois plus fort, parce que là, il ne faut surtout vraiment pas voir, pour répondre à ta question, Vincent. Donc, je pense aussi que le déni est un obstacle à faire sauter.
Bah donc, il faut l'étudier, alors, je pense. Mmh. Exactement de la même manière que Sabrina s'est mise à regarder d'assez près les histoires d'aversion au risque et compagnie. J'y réfléchirai. Je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est vraiment un blocage? Je ne sais pas encore. Mais si vous pensez, si on est tous quasi convaincus que c'est un vrai blocage.
Ouais, j'ai déjà dit, c'est moins le déni que la manière dont on l'élève et les inhibitions, parce que les gens sont quand même conscients qu'il y a un problème. Mais ils disent oui, mais on va le faire quand même parce que. Et c'est là que, en fait, c'est important de comprendre ce parce que.
Moi, je trouve que ce déni, il est effectivement lié à la peur de perdre quelque chose qu'on a et dont on a envie et qui nous semble trop difficile à perdre. Et du coup, moi, j'ai bien aimé ce que Sabrina a dit tout à l'heure sur les solidarités. Enfin, je trouve que donner une perspective qui donne envie, ça me paraît vraiment beaucoup plus attractif, à mon avis, et mobilisateur que faire peur. Enfin, en tout cas, je pense. Et par ailleurs, ça me... plusieurs fois, je voulais intervenir, mais à un moment donné, on a parlé d'action collective et il faudrait retourner dans les ouvrages de base, mais par exemple, Olson, il me semble qu'il parlait de qu'est-ce qui génère l'action collective, qu'est-ce qui va mobiliser des gens qui vont du coup s'impliquer dans une action collective. C'est en quelque sorte la promesse d'un gain. Enfin, c'est, à un moment donné, ils mettent en balance ce qu'ils vont gagner à être dans l'action collective ou ce qu'ils vont perdre. Et donc, je pense que ça, c'est pas négligeable aussi. Et c'est en lien avec cette idée de susciter l'envie, finalement, avec l'action collective.
Mais est-ce que ce n'est pas synonyme à des tas de choses qu'on a discutées? On n'était d'ailleurs pas d'accord ce printemps sur l'idée qu'il faut changer le récit, en fait. Si on change le récit, ce qui est dans le déni aujourd'hui ne le sera plus.
Bah oui, moi, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il faut le trouver, ce récit.
C'est pas nous qui allons le trouver, mais il faut que collectivement, les gens aient envie de créer, adhérer, construire un nouveau récit, quoi. Donc, ça revient quand même là encore à l'impulsion qu'on pourrait éventuellement donner pour mettre soit dans les conditions, résilience, soit sur la trajectoire, transformation.
Et Nicolas ?
Oui, non, c'est juste pour un micro-truc, c'est que c'est pas incompatible. En fait, effectivement, les deux doivent être portés en même temps, c'est-à-dire le fait d'écarter un discours et d'en fabriquer un autre, enfin, en tout cas de contribuer à faire qu'un autre émerge. Et enfin, je veux dire, les gilets jaunes, quelque part, dans certaines parties du mouvement, il y avait aussi la sensibilité du gain du collectif au niveau local, quoi. Les gens qui m'en parlent encore et disent c'est un moment où on s'est parlé avec ses voisins les gens qui habitaient dans son quartier, là où on se retrouvait en fait. Donc y a une envie de ça, pardon.
Non, mais c'est pour rebondir particulièrement en ce moment, je pense, du fait que les gens sont isolés. C'est ça que ça m'a intéressé quand Servena a parlé de cette question de solidarité et de lien. C'est que je pense que justement, là, en ce moment, en tout cas, il y a une carte à jouer sur ça, parce que les gens ont envie de collectif. Bon, alors, c'est à double tranchant, parce qu'en même temps, c'est justement ce qui n'est pas possible, ce qui peut causer du risque, etc. Du coup, faut...
Mon regard sur ces collectifs et tout ce que j'ai pu faire avec Colibri, qui aboutissent à des habitats partagés, qui aboutissent à des groupes locaux, qui aboutissent à plein d'actions sur lesquelles les gens se rassemblent, ne naît correctement une action collective à partir du moment où chacun a identifié et exprimé sa motivation personnelle. Et pour ça, c'est comment on a réalisé ce que ça veut dire et quelle est ma place dans une action collective. Et effectivement, il y a l'histoire du gain qui peut être de plein de choses différentes. Et là où on a une action, nous, c'est mais il faut une action forte. C'est on vient vous éveiller à ces questions-là. Mais on est motivé à vous éveiller parce qu'il faut vous éveiller à ces questions-là, parce qu'il faut que vous trouviez quelque part comment vous, avec votre voisin, votre voisine, vous pouvez faire une action collective qui fait que ça change, parce que seul, on n'y arrivera pas, grosso modo. Et du coup, il y a toujours cette promesse d'espoir de construire des actions différentes, pas obligatoirement avec tous ses voisins, mais une partie de ses voisins, et puis les autres voisins font une autre action, et comment on fait vivre ça ensemble. En tout cas, moi, ce que je ressors de tout ce que j'ai pu porter en action citoyenne, c'était le nerf, c'était vraiment, OK, comment moi, je m'intègre dans ce collectif et du coup, comment j'ai les idées claires pour y aller. Et c'est là où, pour moi, le déni revient. Et la motivation personnelle, elle est super importante, en fait.
Je suis désolée, je n'avais pas vu l'heure, mais il faut que je vous quitte.
Oui, il est 7h-10, effectivement. Ouais. On a explosé les temps, là. Bah écoutez, je vous mettrai cette vidéo pareil sur cette bande audio sur le site. Je ne suis pas là jeudi. Si vous continuez, bonne continuation sur ça. J'écouterai avec plaisir. Je vous dis du coup à mardi prochain en visio, sinon au téléphone avant.
Ça marche.
Bonne soirée.
Bonne soirée
à tous. Ciao, bye bye.
Bien à vous, ciao.
À demain.
Ouais, à demain, Vincent. Merci beaucoup.
D'ailleurs, Nicolas, est-ce que ça peut être ouvert à des personnes de l'équipe demain soir ou c'est
oui, bien sûr, oui.